Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifiés en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux lire avec moi le conjoint idéal? Oui, le conjoint idéal. Qui croit que le conjoint idéal existe? Bien sûr qu'il existe pour toi. Oh. Bien sûr qu'il existe. La personne parfaite que tu es censé amener à la perfection. Parce que personne n'est parfait. Je prends le temps de le répéter, personne n'est parfait. On a dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ça fait maintenant, on en est à notre, depuis le séminaire, on en est à notre huitième message. Huitième message, parce que tout simplement, c'est, il y a beaucoup de choses à dire, il faut prendre le temps d'y rester, il faut essayer de toucher tous les points. Il faut essayer de toucher tous les points. Essayer d'aborder le maximum de points pour que tout le monde, pour que toutes les questions puissent trouver réponse. On a dit que, je pense que maintenant tout le monde l'a compris, à part ceux qui viennent pour la première fois, ou ceux en tout cas qui n'ont pas pris ce message en cours de route, que choisir la personne de notre destinée, choisir la personne avec qui on va vivre, même si on est encore très jeune, ça vous concerne. Parce qu'il ne faut pas jouer avec ça. Parce qu'il suffit de faire une erreur dans sa vie, il suffit de choisir la mauvaise personne pour se retrouver au mauvais endroit et puis souffrir le reste de sa vie. La personne avec qui on choisit de marcher pour le reste de sa vie est quelqu'un de très important, parce que je répète encore à nouveau, il suffit d'une personne pour faire de ta vie un enfer ou un paradis. Donc, faut pas te tromper. Faut pas te tromper, car c'est la personne que tu vas voir tous les matins quand tu vas te réveiller et tous les soirs quand tu vas te coucher. C'est une personne qui est très importante. Et chaque fois que tu t'apprêtes à utiliser quelque chose, en général, le fabricant met toujours une notice. Hein? Il met toujours une notice à l'intérieur. Donc, le mariage qui a été institué directement par Dieu lui-même, il faut prendre le temps de le comprendre. Il faut prendre le temps de comprendre le process. Il faut prendre le temps de comprendre comment est-ce qu'on se prépare au mariage. Et c'est pour cela que Dieu a pris le temps de nous préparer, de nous faire comprendre que vous devez aborder ce point. Ce que nous partageons ici ne vous touche pas juste vous qui êtes là. Parce que le message est aussi partagé sur Internet. Et sur Internet, il y a beaucoup de gens qui écoutent ce que nous partageons ici chaque dimanche. Je n'ai pas envie de nous jeter des fleurs, mais j'ai envie de nous dire que le fait que nous soyons dans cette phase-là, beaucoup se reconnaissent dans les messages que nous partageons. Amen. C'est très important parce que beaucoup, en fait, traversent des difficultés. J'ai reçu des mails de gens. Il y a des gens qui m'ont écrit de France, de Belgique, d'Angleterre, Côte d'Ivoire, et puis les autres, je ne sais plus. Des gens qui disent simplement merci, je me suis levé ce matin, j'avais un problème sérieux avec mon conjoint, et puis je me suis dit que je n'avais pas la force de prier, ça c'est une femme, je n'avais pas la force de prier, et je suis allé sur enseignement.com, et puis sur enseignement.com, je suis tombé sur un de vos messages, et puis j'ai écouté, et c'était vraiment une vraie libération, vraiment, que Dieu vous bénisse, continuez comme ça. Et que Dieu bénisse la maison du bâtisseur. Donc, elle a même aussi pensé à toi. Amen. Il y en a aussi d'autres qui disent continuer parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui ont besoin d'entendre cela, etc., etc. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on fait ça. On fait ça parce qu'on sait que beaucoup en ont besoin. Et toi aussi, tu en as besoin. C'est pour cela que je nous invite. Moi, je demande à tout le monde, tous ceux qui écoutent les messages ici, tous ceux qui viennent à l'église, de reprendre ces messages, de les réécouter. Il faut réécouter. Si tu ne peux pas les prendre sur CD pour le moment, trouve une solution, fais-le savoir. Mais en tout cas, il faut que tout le monde écoute ça. D'accord ? Il ne faudra pas que demain, quelqu'un vienne me dire ici, « Oh, je suis allé me mettre avec quelqu'un et puis Depuis, je savais que cette personne était colérique, mais je n'ai pas réglé ça. Je pensais qu'il allait changer. Alors qu'on a insisté sur la colère ici, là, ne pas te mettre avec quelqu'un qui est colérique. Et après, la personne maintenant te fait ça dur dans le couple. Non. Il faut savoir prendre le temps de laisser Dieu te préparer pour le mariage. Parce que le mariage, c'est tellement sérieux que faut pas se presser. Faut pas se presser. La société à l'extérieur nous met la pression pour nous faire comprendre, nous faire croire qu'il faut se dépêcher de se marier. Faut pas te presser de te marier. Gloire à Dieu. Donc, on a dit beaucoup de choses. La première, le premier critère, je les rappelle très rapidement, du conjoint idéal, c'est-à-dire celui que tu es censé amener à la perfection, c'est qu'il ait la crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi la crainte de Dieu? C'était le premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'il soit fidèle. Est-ce que tu peux dire avec moi la fidélité? Le troisième critère, c'est trouver quelqu'un de responsable. Dis avec moi la responsabilité. Le quatrième critère, on a dit que c'était quelqu'un qui doit... Tu dois chercher quelqu'un qui te protège et non pas qui cherche à t'exploiter sexuellement. Est-ce que tu peux dire avec moi un protecteur? Un protecteur, c'est très important. Le cinquième critère du conjoint idéal, celui que Dieu veut mettre sur ton chemin et le critère sur lequel tu dois aussi veiller, c'est celui où il exige que tes besoins soient comblés avant les siens. Est-ce que tu peux dire quelqu'un de... comment est-ce qu'on peut dire ça? D'attentionné. Attentionné, dis-moi attentionné. Le sixième critère, c'est quand il te parle, qu'il se focalise toujours sur tes qualités intérieures et non pas extérieures. Dis avec moi quelqu'un qui a de l'intérêt pour toi et qui te valorise. Dis avec moi qui te valorise. Oui, il faut qu'il te valorise, c'est très important. Particulièrement les hommes, valoriser les femmes. Hein? Très important. Le septième critère, c'est du conjoint, c'est qu'il parle toujours en bien de toi devant les gens quand tu n'es pas là. Est-ce que tu peux dire avec moi, il dit du bien de moi? Si c'est un homme, tu dois dire, elle dit du bien de moi. Le huitième critère, c'est qu'il est doux et tempéré, il n'est pas colérique. Est-ce que tu peux dire avec moi, doux? Oui, doux, et non pas colérique. Le neuvième critère qu'on a abordé, c'est qu'il est économe et accorde de la valeur à l'argent. Dis avec moi un économe. Quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui sait gérer l'argent, quelqu'un qui ne dépense pas n'importe comment. Parce que si tu te mets avec quelqu'un qui dépense n'importe comment, il va t'emmener les problèmes à la maison. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit responsable. Quand tu es seul encore, ça va. Quand tu es seul encore, ça va. Tu peux dépenser ton argent comme tu veux. Si tu es fauché, ça ne regarde que toi. Mais le jour où tu décides de te mettre avec quelqu'un et que vous êtes sur le chemin des fiançailles et après le mariage, vous devez commencer à vous responsabiliser financièrement. Parce que qui dit une relation sérieuse dit des projets maintenant qui vont naître. Hein? Il y aura beaucoup de choses qui vont naître. Parce qu'après le mariage, il va falloir construire le foyer et préparer la venue des enfants. Et la venue des enfants, ça ne se prépare pas n'importe comment. Hein? Les jeunes, peut-être, vous vous dites, ah, ça c'est encore trop loin pour moi. Ce n'est pas si loin que ça. Hein? D'ici 10 ans, 12 ans, ce n'est pas loin. Hein? Ça vient très, très vite, je te rassure. Oui, ça vient très vite. Le dixième critère du conjoint idéal, c'est qu'il est humble de cœur. Dis avec moi, quelqu'un de humble. Oui, il est humble et pas orgueilleux. On a beaucoup insisté sur l'orgueil. Hein? On a beaucoup insisté sur l'orgueil. Le onzième critère, c'est qu'il t'écoute et accorde beaucoup d'importance à ton opinion. Dis avec moi quelqu'un qui écoute. Ouais, quelqu'un qui écoute. Souvent, quand on est avec les gens, on passe plus de temps à écouter. Enfin, on passe plus de temps à répondre qu'à écouter. On passe plus de temps à répondre aux gens au lieu de prendre le temps de les écouter. C'est quand tu prends le temps d'écouter quelqu'un que tu le comprends mieux le fond de sa pensée. Mais nous, naturellement, charnellement, on répond plus. Alors qu'il faut, Dieu nous demande d'écouter les autres. Le douzième critère, c'est qu'il respecte et honore les autorités. Dis avec moi quelqu'un qui respecte les autorités. C'est très important, les autorités. Ouais. Et quand tu es avec quelqu'un, quand tu commences à marcher avec quelqu'un qui ne respecte pas les autorités, il faut faire très attention à cette personne-là. Je ne vais pas y revenir. Le treizième critère, c'est qu'il a une vision claire pour son foyer. Dis avec moi quelqu'un qui a une vision. Oui, ça concerne l'homme et la femme, la vision. Mais ça concerne beaucoup plus l'homme, parce que c'est lui qui est appelé à être le chef de famille. Un chef de famille qui n'a pas de vision pour son foyer, c'est quelqu'un qui va emmener son foyer droit dans le mur. C'est très important. Parce que l'homme est la tête du foyer. Et toute tête du foyer, quand elle ne sait pas où elle va, où qu'elle se tourne, tout le corps va. Donc si le chef de famille va à gauche, tout le foyer va à gauche. S'il va contre le mur, tout le foyer va contre le mur. Donc c'est important la vision. C'est très important la vision. Et aujourd'hui, on va terminer, on va continuer et on va entamer le 14e critère qui est très important du conjoint idéal. C'est celui qui sait te consacrer des moments de qualité. Tu peux dire avec moi des moments de qualité? Les moments de qualité, passer du temps ensemble, passer des moments privilégiés. Souvent, quand on est dans la relation amoureuse, on ne prend pas le temps de valoriser les moments de qualité avec la personne qu'on a décidé d'aimer, qu'on a décidé de mettre à côté de nous. Le gros souci que l'on rencontre souvent avec les couples, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de développer des temps de qualité. Ils sont juste ensemble, physiquement. Et quand tu ne prends pas le temps de développer des moments de qualité avec ton partenaire alors que vous n'êtes pas encore marié, je t'assure, ce n'est pas dans le mariage que tu vas le faire. C'est vraiment pas dans le mariage. Qu'est-ce que j'entends par moment de qualité? C'est accorder à l'autre une attention totale et sans partage. Ce n'est pas s'asseoir à côté de lui pour regarder la télé. Parce que quand tu es assis devant la télévision, même si l'autre est à côté, ton attention est portée sur ce que tu regardes à la télé, pas sur l'autre. Passer des moments de qualité, c'est savoir faire abstraction de tout ce qui nous entoure et passer du temps ensemble. Et demain, quand vous allez être dans l'intimité, quand vous allez être marié, ce sera quelque chose que vous aurez déjà pris l'habitude de cultiver. Mais si vous n'avez pas pris l'habitude de passer du temps ensemble, des moments de qualité à vous, à valoriser ces moments, ces instants-là, vous ne le ferez pas dans le mariage. Et les moments de qualité, c'est un point qui est très important. À l'écoute, ça a l'air très banal. Mais c'est quelque chose de très important, particulièrement chez les Africains, chez les Noirs. Les Blancs, ils connaissent plus les choses de qualité, ils connaissent plus ça. Ils se font des caresses, ils se regardent dans les yeux, ils se font des hugs, des câlins, des choses comme ça. Les Noirs, moi, je sais pas pour vous, mais moi, je vois pas beaucoup de Noirs faire des... J'en vois pas beaucoup ici. Ça arrive de voir ce genre de choses, mais plus avec des gens qui nous sont proches. Oh, comment tu vas? Oh, ma soeur et tout. Mais sinon, en général, tu vois pas les Blancs, par exemple, quand quelqu'un... Et attristé, quand quelqu'un est triste ou bien quand quelqu'un est touché, la personne fait tiens, viens. Et puis il prend dans les bras, tu vois, ce qu'on voyait dans les feux de l'amour, ce genre de choses-là. Tu vois, il prend la personne dans les bras pour la consoler. Toi, c'est l'autre commence à s'attrister. Mais tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Non. Tu vois, non. Les moments de qualité sont des moments extrêmement importants. Bon, là, j'ai mis l'accent sur la tristesse, mais les moments de qualité, même dans la joie aussi. Passer juste du temps ensemble. Quand on est partenaire et qu'on s'apprête à rentrer dans les fiançailles, qu'on s'apprête à se marier, il faut qu'on développe ces choses-là. Ce n'est pas s'asseoir à côté de lui pour regarder la télévision. On peut rester assis sur le divan, mais avec la télé éteinte, par exemple. Avec la télé éteinte et puis se discuter, parler, apprendre à se connaître, faire abstraction de tout. Dis avec moi les moments de qualité. C'est très important. Les femmes particulièrement, faut vraiment insister pour avoir les moments de qualité avec la personne avec qui on décide d'avoir une relation sérieuse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes. Mais quand tu as 23 ans, 24 ans, et que tu rencontres celle avec qui tu veux te mettre plus tard, la relation peut durer 6 ans, 7 ans, 8 ans avant que vous rentrez vraiment dans la phase de mariage. Mais c'est durant cette phase-là, vous apprenez à développer des temps de qualité. Mais si tu es avec un garçon ou avec une femme qui est dure, qui ne connaît pas ces choses-là, et puis vous allez vous marier, rassure-toi, ce n'est pas dans le mariage que vous allez faire ça. C'est comme ça que tu retrouves dans les mariages des personnes qui sont ensemble, mais qui se sentent seules. Parce qu'elles n'ont pas pris le temps de développer des moments de communion à deux. Ils sont ensemble tous les jours, mais ils se sentent seuls. Par exemple, un autre moment de qualité, c'est inviter l'autre au restaurant. Vous allez au restaurant tous les deux. Vous n'avez pas remarqué que quand vous allez au restaurant, vous remarquez très rapidement les gens qui sont fiancés et ceux qui sont mariés. Je vais vous dire comment. En général, ceux qui sont fiancés au restaurant, ils sont toujours très très proches et puis ils se regardent, ils se parlent. Ils se fixent dans les yeux, ils se parlent. Ils sont encore dans la phase, ils sont très amoureux, tout ça, là, tu vois, là. Ils sont là, et ça papote. On ne voit pas le temps passer, ça papote. Par contre, vous remarquez très vite les gens qui sont mariés. Ils ne parlent pas, ils mangent. Puis ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Ils sont juste venus manger, en fait. Les gens qui sont mariés, c'est souvent ça en général. C'est comme si on dirait, ils sont blasés. Ils sont ensemble. Ils n'ont plus rien à se dire, quoi. Ils sont là. Vous les remarquez très rapidement au restaurant. Ils sont là. Surtout ceux qui ont la quarantaine, là, tu les vois. Papa, maman. Ils mangent. Et puis, ils ne se parlent pas. Le temps passe. Et puis, bon, tu as fini. On y va. Oui, moi, je commence à être fatigué là-bas. Là, on y va, on rentre. Souvent, c'est ça. Alors que ceux qui sont fiancés, quand ils sont au restaurant, ils prennent le temps, ils se regardent, etc. Tu vois? Et c'est très, très important, les moments de qualité. Donc, passer du temps avec l'autre sans rien faire d'autre, c'est lui offrir, d'une certaine manière, sa vie. C'est lui offrir sa vie. C'est se donner à lui. Et ça, on apprend à faire ça quand on est encore partenaire. Et quand on fait cela, on développe ce qu'on appelle la complicité. On développe la complicité et c'est cette complicité-là qui va croître dans le mariage. C'est très rare quand deux personnes sont très, 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 très complices et qu'arrivées dans le mariage, elles le perdent. En général, quand la complicité s'en va dans le mariage, tout de suite, il y a des problèmes qui surviennent et il y a un gros malaise. Mais quand vous voyez des couples qui rentrent dans le mariage, ils sont mariés, mais le fait de ne pas avoir de complicité, ça ne leur fait rien du tout. En général, il y a toujours un des deux en général qui en souffre. Il y a toujours un des deux en général qui en souffre. Parce qu'il a envie d'être proche de l'autre. Donc, la question maintenant que quelqu'un peut me poser, c'est bon. Pasteur, comment consacrer du temps de qualité à son conjoint? Mais c'est très simple. C'est très simple. Soyez ensemble, hein. Soyez ensemble, passez du temps ensemble. Je ne dis pas passer du temps à faire beaucoup de choses. Passez du temps ensemble. Arrête de faire tout ce que tu fais. Laisse le travail. Laisse l'école. C'est-à-dire, passe du temps avec lui. Passe du temps avec elle. Et restez là et passez du temps ensemble. Soyez ensemble. Profitez pleinement de ce moment en vous témoignant de l'amour par de belles paroles, de beaux regards. Taquinez-vous. Riez. Riez, il faut rire. Les Gabonais ne rient pas suffisamment. Oh mon Dieu, les Gabonais, il faut rire. Les Gabonais ne savent pas sourire. Hier, il y a deux personnes qui sont venues me voir chez moi, deux jeunes qui sont venus me voir chez moi. Ils étaient en train de faire une petite enquête pour une société d'assurance. Et ils devaient juste aller demander aux gens, est-ce que votre maison est assurée? L'un des deux me dit, on nous chasse, on nous achète. On lui dit, ah, mais c'est, les gens, ils sont chauds ici, hein. Les gens, ils nous insultent, hein. C'est ça, non? Les gens sont sauvages. Et moi, je lui répondais, le Gabonais, en général, de nature, est sauvage. C'est typique. Ils sont sauvages. Le Gabonais n'est pas accueillant. Le Gabonais ne sait pas accueillir les gens. Il a toujours le front fermé. Dès que tu veux lui adresser la parole, on dirait, il va t'agresser. Je ne sais pas, mais c'est particulier comme espèce, hein, comme nature. je sais pas ce qu'ils ont, ces gens-là, les Gabonais. C'est quelque chose. Moi, c'est quelque chose que je les regarde, je les observe, je les étudie, mais je comprends pas, en fait. Parce que moi, j'ai voyagé un peu et j'ai vu d'autres nations où les gens sont accueillants. C'est agréable. Quand ma femme et moi, on est partis en République Dominicaine, là-bas, tout le monde, quand tu te crois, c'est « Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, bienvenue, asseyez-vous, comment allez-vous ? » Ils sont heureux de te voir. Et dès que tu lui dis « Et toi, comment ça va ?» Ils te répondront toujours « Ça va, tant que la santé est là, ça va. Dieu est grand. » Ils répondent toujours ça. Ici, rien qu'à l'aéroport, monsieur, vous voulez quoi ? Il n'y a pas de problème, j'ai juste demandé un papier, hein. Il n'y a pas de problème. Oui, vous voulez quoi? Non, mais ce n'est pas la peine de s'énerver. Ah, tu me fatigues. Oh. Les Gabonais, ça. Donc, riez. Donc, parce que c'est en eux, ça se retrouve forcément dans les relations amoureuses. Le gars, il sort avec elle, mais il est toujours énervé. C'est quoi ton problème? Il est toujours énervé. Là, j'insiste parce que je sais que je parle à des gens. toujours fâché, toujours en train de jouer le dur, toujours le torse gonflé. Tu veux montrer quoi? Alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est un faiblard. C'est un faiblard. Oui! Toujours en train de s'énerver. Je vous avais déjà raconté l'histoire de la femme, son chien aboie, et puis je vais chez elle pour lui dire, madame, vous pouvez juste demander à... Juste faire en sorte que votre chien aboie fort. Oh, mon Dieu, on a voulu me tuer sur place devant tout le monde dans la rue. Quoi? Et puis quoi? Le mari était là, il a regardé seulement. J'avais envie de dire, monsieur, calmez votre femme quand même. La sauvagerie. Faut pas être sauvage, faut être cool. Tranquille, enthousiaste. Vivre de manière intense tous les jours. Et quand tu es avec elle, quand tu es avec lui, sois cool, rigole, donne-toi à elle. Parlez de ce que vous aimez, racontez vos histoires, votre quotidien. Apportez-vous des conseils mutuellement, accordez-vous une attention soutenue. Ce n'est pas juste être ensemble dans la même pièce. On peut être physiquement dans la même pièce, mais ne pas s'intéresser l'un à l'autre. Soyez attentifs l'un à l'autre. Passez un moment de qualité. Quand vous partez, par exemple, quand vous êtes ensemble, par exemple, passe du temps à aller vous balader, marcher. J'avais envie de dire aller au parc, mais ici, il n'y a pas de parc. Ça va venir par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Bon, aller à la plage, au lycée Mba, marcher un peu sur le long de la plage, je ne sais pas moi. Marcher, allez vous balader. Ne l'emmène pas à Mombouet. Non, va dans un endroit bien. Marcher. Où est-ce qu'on peut marcher dans Libreville sans avoir de monde autour de soi et être dans un endroit tranquille? En général, tu es obligé de sortir un peu de Libreville. Parce qu'en ville, bon, il y a trop de monde en général. Donc, pars un peu avec elle. Passe du temps avec elle. Sors un peu. Je n'ai pas dit de prier quand vous êtes ensemble. Il ne faut pas être trop spirituel. Parfois, les chrétiens, les enfants de Dieu, ils sont trop spirituels. Quelqu'un les avait nommés les SS, super spirituels. C'est-à-dire, quand on est ensemble, on doit toujours faire les choses spirituelles. Si on ne parle pas de Dieu, on ne peut pas parler d'autre chose. Il y a un problème. Si tu es avec quelqu'un, avec un garçon, et il ne peut pas parler d'autre chose que de parler de Dieu, c'est lui qui a un souci, ce n'est pas toi. C'est lui qui a un souci. Tu es avec un garçon, tu t'intéresses à lui, il s'intéresse à toi, mais tout le temps, quand on est ensemble, il veut parler toujours de Dieu. C'est quoi son problème? Tout le temps, il veut parler de Dieu, il veut parler de la Bible, il veut parler de l'Église, il veut parler des enseignements, il veut parler de... C'est quoi? Dieu dit, mais laisse, c'est ta go, c'est pas la mienne. Non, reste avec elle, arrête de parler de moi. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Ou bien il est avec elle, il bouge les lèvres, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de prier, toi aussi. Je prie, c'est quoi? Il y en a beaucoup comme ça. Vous n'avez pas rencontré des chrétiens comme ça? Des gens, quand ils sortent, quand vous les croisez, on dirait qu'ils ne sont pas équilibrés. Ils sont trop spirituels. Ou bien, quand ils parlent, ils sont à tout bon en train de dire Amen, 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 Amen. Tout le temps. Amen, Alléluia. Oh, Alléluia, oh. Non. C'est rien presque. Dès que tu les vois dans un bureau au travail, tu reconnais tout de suite que lui, là, c'est un SS. Oh, Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Tu es obligé de crier au nom de Jésus comme ça devant tout le monde. Ça, c'est les SS. Et quand tu as quelqu'un comme ça, il emmène ça dans la relation amoureuse, il t'impose ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Autre monde qui a été fait des activités ensemble. Faites des choses ensemble. Sortez, faites des activités ensemble. L'activité en tant que telle, quand on la fait ensemble, ça ne veut pas dire qu'on s'intéresse à l'activité. Ça veut simplement dire qu'on utilise l'activité pour créer une complicité. Faites quelque chose ensemble. L'activité n'est que secondaire. Par exemple, dans le cadre du mariage, quand tu vois un père qui est en train de jouer au football avec son enfant, ce qui intéresse le père, ce n'est pas le football. Ce qui intéresse le père, c'est son enfant. Il veut créer un lien intime avec son enfant au travers du football. De même, dans le couple, c'est la même chose. Faites des choses ensemble et en faisant des choses ensemble, on va créer un lien entre nous deux. dialoguer, parler. Parler de choses autres que Dieu. Parler de choses. Quel est ton film préféré? Moi, je suis sûr que si je prends certains couples, je leur demande, c'est quoi ton film préféré? Il ne saura pas quoi répondre de l'autre. C'est quoi son film préféré, plutôt? C'est quoi son film préféré? Quel genre de voiture il aimerait conduire, tu crois? Est-ce que tu es sûr que si aujourd'hui je te donne l'argent pour aller lui acheter une voiture, tu sauras choisir la voiture qu'il va vraiment aimer? Est-ce que tu sauras faire ça? Hein? C'est quoi sa couleur préférée? Des trucs bêtes comme ça. C'est quoi sa couleur préférée? Il y a beaucoup de couples gabonais ici. C'est quoi sa couleur préférée? Ils ne sauront même pas te répondre. Hein? Ah, ben, je ne sais pas. Hein? Il aime bien le noir ou le vert, je sais. Beaucoup de couples sont comme ça. Beaucoup de couples gabonais, ils ne créent pas d'intimité. Il n'y a pas d'intimité. Regardez ce que la Bible nous dit. Au livre des Proverbes, chapitre 5, au verset 18. Remplis-la de bonheur, trouve ta joie dans la compagne de ta jeunesse. Une femme ne peut pas être la compagne de ta jeunesse si vous n'avez pas appris à cultiver ensemble une complicité dans des moments de qualité. Elle sera la compagne de ta jeunesse dans le mariage si tu as appris à cultiver avec elle des moments de qualité. Parce que dans le mariage, avec le temps, elle vieillira, elle changera. Mais toi, tu verras toujours en elle la compagne de ta jeunesse. C'est comme ça qu'il y a des hommes qui sont avec des femmes dans le mariage et au bout d'un certain temps, ils s'ennuient. Elles ne l'intéressent plus parce qu'il n'y a pas eu cette complicité-là qui a été cultivée. Et le problème avec beaucoup de couples mariés, c'est cela, c'est qu'il n'y a pas eu de moments de qualité lorsqu'ils n'étaient pas encore mariés. Est-ce que tu peux dire avec moi les moments de qualité? Oui. Le 15e critère du conjoint idéal, c'est qu'il est intègre. Est-ce que tu peux dire avec moi l'intégrité? Il est intègre et il a horreur de la malhonnêteté et de la corruption. Quelqu'un me dira, pourquoi, pasteur, tu prends ce point? Je t'assure que c'est un point qui est très, très, très important. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai rencontré des couples, et j'en connais encore à l'heure où je te parle, des couples où l'un des deux, en général l'homme, quand il arrive à un poste important, monsieur, il se corrompt. Il vole et madame à côté, elle est là, elle ne dit rien. Pourtant, elle sait qu'il a volé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle profite. Elle aussi, elle devient aussi voleuse. Alors que le conjoint idéal que tu es, quand tu vois l'autre qui commence à dévier et à faire des choses bizarres, tu dois être capable de lui dire non, 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 là, je ne suis pas d'accord avec toi. On n'est peut-être pas marié aujourd'hui, mais j'ai appris que. Imagine par exemple que tu es avec un homme qui, au niveau professionnel, est quelqu'un qui est bien placé. Il est quelque part dans une administration ou dans une société, etc. Vous êtes ensemble. Il a un poste important. Il brasse de l'argent. Et puis, une info arrive à tes oreilles que, oh, il est mêlé à un scandale. La première chose que tu fais, c'est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'on dit, tu l'as vraiment fait? Ah, toi aussi. Oh. Tu sais comment les choses se passent au pays? Comment les choses se passent au pays? Il faut me dire un peu. Donc, tu es voleur. Donc, tu as volé. Ah, moi, je rentre pas là. Donc, tu dois te dire que ce gars-là, s'il fait ça aujourd'hui, demain, quand vous allez être mariés, on ne verra plus lui. On verra vous deux parce que tu porteras son nom. Voici la dame de monsieur tel. Ce voleur-là. Pourtant, elle a vécu tous les jours, non? Elle ne peut pas lui dire. Du jour au lendemain, il arrive à la maison, il y a une nouvelle voiture qui est garée dans le parking. La première question, c'est, chérie, tu as acheté ça comment? Il y a des femmes, elles ne posent même pas de questions. Elles voient juste les choses se garer dans le parking, les choses s'accumuler dans la maison, et puis elle ne dit rien. Tu es complicité de vol. Donc demain, s'il y a problème, c'est vous deux qu'on va frapper. Ce n'est pas lui seulement. Oui. Oui, on est peut-être encore très jeune aujourd'hui, mais la vie fait que certains d'entre vous, vous allez accéder à des responsabilités, vous allez être confronté à des situations, et en tant que conjoint, lorsque l'autre va être à côté de vous, il faut être capable de lui dire que non, moi, La Bible dit, sois le gardien de ton frère. Moi, faut que je sois ton gardien. Donc, si je te vois faire des choses qui ne sont pas bien, je dois être capable de te dire, non, ne fais pas. Et ne me dis pas que ce n'est pas mes affaires, parce que demain, on va se marier, ce seront mes affaires. Oui, ce seront mes affaires. Donc, il doit être intègre. Et si tu marches avec quelqu'un depuis un certain temps, parce que vous vous aimez bien, et vous êtes en train de préparer une relation sérieuse, mais tu sais que ce gars-là, il a fait des choses pas bien, fais gaffe. Faites très attention. Ce dont je vous parle ici, c'est très, très, très courant ici au Gabon. C'est très courant. Au contraire, oh, il a percé. Il a percé. Il n'a nullement percé. C'est un voleur. Il n'a pas percé. Oui? Dès qu'on entend la nomination, tout le monde fait la fête. Tout le monde fait la fête pourquoi? Il n'est que fonctionnaire. On fait la fête pourquoi, d'après vous? Pourquoi on fait la fête? Oh, il a été nommé ministre. On fait la fête. Pourquoi tout le monde fait la fête? Tu vois les cousins, tout le monde fait la fête. Donc ça veut dire quoi? Que tu vas nourrir tout ce monde-là. Fonctionnaire avec ton salaire de 2 millions, 3 millions, tu vas nourrir tout ce monde-là. Tu as déjà ta propre famille. Ils font la fête pourquoi? Parce qu'ils savent que là, il a la position. Il va gérer le budget et il va voler. Il va voler et distribuer à tout le monde. C'est une culture chez nous. C'est une culture, c'est devenu normal. Nous sommes dans une société de voleurs et de gens malhonnêtes. Oui, des gens malhonnêtes. Je parlais avec la propriétaire des bureaux de notre société il y a 3 jours. Et puis elle me disait, ça c'est la voiture de ma retraite. Elle me montrait une très belle Prado, toute neuve, pimpante. Et puis elle dit, non, j'ai acheté avec mon argent. J'ai dit, mais donc la voiture que tu avais, la voiture de fonction, elle dit, mais j'ai rendu. Est-ce que c'est ma voiture? J'ai rendu. Pourtant, elle aurait pu garder. Elle était très importante dans la boîte. Elle aurait pu garder. Qui lui aurait dit de quoi que ce soit? Elle dit, non, j'ai rendu. Et je me suis acheté une voiture pour ma retraite. Ça, c'est l'intégrité. Mais ici, là, il y en a plein. Tu les vois, ils roulent dans les rues de Libreville. Vous n'avez pas remarqué que dans les rues de Libreville, il y a plein de plaques bleues. Les plaques bleues, là, ça vient d'où? C'est les gens qui ne veulent pas rendre les voitures. Manque d'intégrité. Et beaucoup de jeunes sont là-dedans. Et c'est très important. Voici ce que la Bible nous dit au sujet de l'intégrité. Proverbe 15, 6. Il y a grande abondance dans la maison du juste, c'est-à-dire de celui qui est intègre. Mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Le jour où tu es avec quelqu'un qui manque d'intégrité, tôt ou tard, les problèmes vont arriver dans la maison. C'est ce que nous dit la Bible. Proverbe 15 au verset 27. L'homme avide d'argent attire la ruine sur quoi? Sa famille. Celui qui ne se laisse pas acheter jouira d'une longue vie. L'intégrité et la droiture sont des critères sur lesquels vous ne devez pas lésiner. Vous devez être ferme là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui viennent aujourd'hui à l'église, des chrétiens. Ils sont assis dans l'église, mais dès qu'ils sortent de l'église et qu'ils vont au boulot, ils se comportent comme des païens. Ce n'est pas parce que tu as un poste à responsabilité et important que tu peux te permettre d'avoir la main sur le budget et de te servir. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas à toi l'argent, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent de l'État. Mais aujourd'hui, il y en a qui se comportent comme si l'argent de l'État leur appartenait. Voiture à 50 millions, frais de mission pas possible. J'ai appris la semaine dernière que lorsque le président a arrêté les fonds de verser les fonds communs, il y en avait qui touchaient 350 millions de francs CFA par mois. Information qui m'est venue d'une source sûre. 350 millions par mois des directeurs généraux d'administration. Donc, il y en a qui insultent l'autorité en disant que l'autorité a arrêté ça. Mais l'autorité, s'il arrête ça, c'est parce qu'il y a trop de désordre. Et pourquoi est-ce qu'on prend le temps de rétablir ça doucement, doucement? Il y en a jusqu'ici, c'est l'actualité en ce moment. Il y a des administrations qui se plaignent, il y a des corps qui se plaignent, qui n'ont toujours pas touché leur fonds commun de placement, leur PIP. Pourquoi? Parce qu'on prend le temps de mettre de l'ordre. Et il y en a qui se plaignent alors qu'en fait, ils n'ont pas le droit de toucher à ça. Là, en ce moment, il y a les militaires qui font grève. Parce que les militaires se plaignent qu'ils veulent leur pays paix. Mais les militaires n'ont pas droit à ça. On leur a versé ça pendant des années, ils n'ont pas droit. Pourquoi? Parce que eux, en fait, à la place, ils ont ce qu'on appelle une prime de risque. Donc, ils n'ont pas droit à ça. Donc, quand il a vécu avec ça depuis des années, et un jour, on lui coupe ça, mais il n'est pas content. Et il y en a, même si c'était ton bon ami, il touchait 350 millions par mois. Le jour où tu lui enlèves ça, il va devenir ton ennemi vite. Hein? Ah oui, son opinion change, tout change. Ah oui. Je vous assure, dans notre pays, là, 1,5 million d'habitants, il y en a qui touchent ça par mois. Qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. On ne voit pas d'entreprise se créer, on ne voit pas d'immeuble monter. Qu'est-ce qu'il fait avec autant d'argent tous les mois? Il accumule. C'est tout ce qu'il fait. Donc oui, la réaction c'est « Oh, c'est vrai ça !» Oui, c'est vrai, mon frère, ma soeur, c'est vrai. L'intégrité, est-ce que tu peux dire avec moi l'intégrité? L'intégrité, c'est très important. Et votre couple doit être bâti sur l'intégrité. L'intégrité, c'est la fondation. Ne permettez jamais à quoi que ce soit de venir s'immiscer dans votre couple qui remette en cause votre intégrité et votre droiture en tant que couple. C'est très important car Dieu, lui, qui vit au milieu de vous, il regarde ça. Et si vous n'êtes pas intègre et que la malhonnêteté est assise dans votre maison, je vous assure, la faveur de Dieu ne viendra jamais sur votre couple. Jamais. Vous vivrez au jour le jour. La Bible nous dit encore, Proverbe 19, « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » Un jour, on va t'attraper. On va t'attraper un jour. Et regardez ce que nous dit la version courante. « Vivre dans l'intégrité, c'est vivre dans la sécurité. L'homme à la conduite tortueuse sera démasqué un jour ou l'autre. » J'aime parler comme ça. Gloire à Dieu. Que Dieu nous garde, que Dieu me garde, que Dieu te garde, que Dieu nous garde du mensonge et qu'il n'y ait pas de scandale qui soit associé à ta vie et qui remette en cause ton intégrité. C'est très important. Donc quand Dieu met sur toi, sur ta route plutôt, quand Dieu met sur ta route une personne qui a des valeurs morales d'intégrité et de droiture, rends grâce à Dieu pour ça. Tu dois prendre soin d'un conjoint comme ça, d'un partenaire comme ça. Quelqu'un qui est droit. Quelqu'un, quand tu es avec lui, tu vois, il est toujours le genre de personne. Même, je vous assure, c'est dans les petites choses que l'on juge de l'intégrité. Tu as ses cadeaux à la caisse, et puis la caissière, sans faire exprès, te rend plus que ce qu'elle doit te rendre. Qu'est-ce que tu fais? Il y en a? Elle n'a pas vu. Et puis il part avec. Voleur. L'intégrité veut que tu dises, « Madame, vous m'avez rendu plus que ce que vous deviez me rendre. » « Ah bon? Tenez, je vous rends. » Il y en a, ils ne savent pas faire ça. Quelqu'un est en train de marcher devant toi, et puis tu vois, boum, un billet de 10 000 est tombé par terre, et puis la personne est en train de partir. Tu ramasses. Et tu... Non, « Madame, vous avez perdu votre billet de 10 000 francs. » Intégrité. Tu trouves un portefeuille, la personne a perdu son portefeuille, quand tu ouvres le portefeuille, tu trouves, il y a 250 000 francs dedans, mais tu trouves aussi la carte d'identité de la personne, avec son nom, et son numéro de téléphone, qu'est-ce que tu fais? Il y en a qui vont dire, mais j'appelle? Ok, j'appelle. Oui, ah, j'ai perdu mon portefeuille. Oh, merci beaucoup, il y avait tous mes papiers dedans. Oui, d'accord, ok, j'arrive. Et quand elle vient, elle te rend le portefeuille. Quand elle prend le portefeuille, elle l'ouvre, elle prend l'argent. Elle ouvre, elle regarde. Et puis elle ne dit rien, elle te jette un regard. C'est bon, madame, tout est là. Voleur. Non, il faut lui rendre, c'est pas à toi. Et c'est dans les petites choses comme ça que Dieu nous teste. Vraiment dans les choses... simple, banal. L'intégrité, dis avec moi l'intégrité. C'est extrêmement important. 16e critère du conjoint idéal. On va essayer d'aller vite pour finir. 16e critère du conjoint idéal, il a le sens du pardon. Dis avec moi le pardon. Il a le sens du pardon et de la miséricorde. Il est tolérant vis-à-vis des erreurs des autres. Le conjoint idéal est celui qui reste conscient que les autres sont aussi des hommes et que personne n'est parfait. L'autre peut un jour involontairement te faire du mal, te blesser. Et le véritable conjoint, celui qui t'aime, c'est celui qui doit pardonner. C'est très important. Parce que personne n'est parfait. Et sur le chemin de la relation amoureuse, vous allez faire des erreurs, vous allez faire des gaffes et l'autre va te blesser. C'est comme ça que vous apprenez à vous connaître et à vous construire. Mais il faut être capable de pouvoir pardonner à l'autre, d'être tolérant. Parce que tout simplement, Dieu te mesurera à la mesure avec laquelle tu mesures les autres. La Bible nous dit cela, Matthieu 6, 12, c'est Jésus-Christ qui parle. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi ce verset? Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins tu pardonnes, moins Dieu te pardonne aussi. Il y en a dans la vie, ils sont méchants, rancuniers, mauvais, intolérants. Mais ils sont toujours en train de demander pardon à Dieu. Toujours en train de prier. Mais quand il s'agit, regardez, il y a une femme un jour qui m'a raconté, ici d'ailleurs, elle me disait qu'elle avait emmené sa sœur dans une église à un séminaire. Et le séminaire, le pasteur avait beaucoup parlé du pardon, de repentance, tout ça. Et elle avait un gros problème avec sa sœur. La personne qu'elle avait emmenée avait un gros problème avec la troisième sœur. Elles étaient déjà sœurs toutes les deux. Et pendant le séminaire, sa sœur avait été très touchée. Elle était même avancée devant. Et le pasteur avait même prié pour elle. Et puis, c'était vraiment, il faut pardonner. Le pardon libère, etc., etc., etc. Donc oui, je veux pardonner. Dès qu'elle sort de l'église, dans la rue, la sœur fait, tu as compris le message, non? Oh, c'était bien aujourd'hui. Oh, alléluia, Jésus est vivant. D'accord. Ah, il y a Catherine qui a appelé. Oh, celle-là, elle appelle même pas. Elle ne m'appelle pas. Je ne lui parlerai pas. Oh, mais le pasteur vient de parler de pardon. Non, je peux pardonner, mais elle, jamais. Ce qu'elle m'a fait, oh, même toi, tu n'aurais pas pu tenir. Même toi. Dieu regarde. Il met les mains sur la tête, il fait, ah ma fille, c'est compliqué ton cas, c'est compliqué. Donc Dieu pardonne en fonction de ce que toi tu pardonnes. Et Jésus-Christ, regardez ce qu'il rajoute. Une parole très importante au sujet du pardon, c'est tout un enseignement. Il fait, en effet, dis avec moi, en effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, qu'est-ce que le Père fait? Votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Dieu peut ne pas pardonner. Tout le monde pense que Dieu est, c'est le doudou qui il pardonne tout le monde, quoi. C'est Dieu est gentil. On peut faire la pire des bêtises, mais Dieu pardonne. Il y a des gens que Dieu ne pardonne pas. C'est Jésus qui dit ça ici. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Car le jour où on te fait du mal, tu ne pardonnes pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est toi la victime aujourd'hui. Mais demain, quand tu feras du mal à l'autre, même si tu demandes pardon, Dieu dit je ne te pardonne pas. Parce que quand c'était toi, tu n'as pas pardonné aux autres. Vous ne vous rappelez pas de la parabole du serviteur infidèle de Jésus? Qui avait mal géré l'argent, et puis son maître, lui, Jésus-Christ dit que le maître dit, mettez-le au cachot et tuez-le. Et puis il supplie. Et le roi dit, ok, tu m'as supplié, je te laisse partir. Qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il sort, il trouve quelqu'un, Jésus-Christ dit qu'il trouve des gens, quelqu'un qui lui doit de l'argent. Oui, mon argent. Il l'attrape par le cou, et puis il étrangle, et puis il dit au soldat, mettez-le en prison celui-là. Et le gars le supplie, il dit, rien à faire, mettez-le en prison. Et il y a des gens qui étaient là, qui ont vu la scène et qui sont allés raconter au roi. Le roi leur appelle, le roi lui dit, moi je t'ai pardonné, et puis toi tu fais ça aux autres. Méchant serviteur, allez au niouf. Oui, faut pardonner. Et le conjoint idéal, c'est celui qui sait pardonner aux autres. C'est celui qui est tolérant. C'est celui qui est tolérant vis-à-vis des erreurs des autres. Et c'est quelque chose de très important. Fais très attention à la personne qui ne sait pas pardonner. Tu marches avec elle tous les jours, mais dès qu'il y a un problème, tu vois que la personne a du mal à pardonner. Il faut attendre longtemps pour qu'elle recommence à te parler. La personne va te bouder. Tu vas l'appeler, tu vas lui laisser des messages, tu vas lui envoyer des textos. Excuse-moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas te blesser. Je n'aime pas quand on est comme ça. Je n'aime pas. Il ne te répond pas. Toute la, il va rester un jour, deux jours, trois jours, une semaine, trois semaines. Il ne te parle pas. Il joue les gandos. Par contre, tu lui envoies des messages. Tu lui envoies des messages. Fais gaffe. Il se comporte comme ça alors que vous n'êtes pas marié. Dans le mariage, ça va être quoi? Ça va être pire. Ça va être pire. Il faut faire très attention au conjoint qui est rancunier. La rancune, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas de Dieu. Car Dieu n'est pas rancunier. Et les gens rancuniers, je te dis, c'est qui le rancunier? Le rancunier, c'est celui qui, non seulement qui ne pardonne pas, mais il attend le bon moment pour te rendre. Ah, c'est le rancunier. Il est là, suis. Il ne dit rien, mais le jour où il peut te rendre, tu te rappelles ce que tu m'avais fait, non? Tiens, ça c'est le rancunier. Méchant. Dieu dit, il est méchant. Et ça, tu le retrouves chez deux personnalités souvent. Le colérique, il est comme ça, c'est un défaut chez lui, et le mélancolique. Plus chez le mélancolique. Le colérique aussi est comme ça, un peu moins. Mais les mélancoliques sont beaucoup rancuniers. Le flegmatique aussi a ce défaut-là. Parce que le flegmatique, c'est celui qui ne parle pas beaucoup. Il garde. Il garde. Donc, quand Dieu n'a pas travaillé son cœur, il peut être très méchant derrière. Rancunier. Ce n'est pas pardonner. Donc, quand vous commencez à cheminer ensemble vers le mariage, les erreurs sont inévitables. Et c'est normal parfois de dire des choses qui vexent l'autre. Ça peut arriver. Mais s'il ne fait pas exprès, ne lui en veut pas, trouve plutôt les mots pour lui dire que tu n'as pas apprécié. Fais-le avec amour et corrige-le avec douceur, il comprendra et ne recommencera plus la prochaine fois. Amen. 17e critère du conjoint idéal. Ah, celui-là j'aime. Il a le goût du travail. Dis le travail. Ah là, ça c'est quelque chose que Dieu... Dieu m'a montré ça dans la parole quand j'ai cherché le travail. Dis avec moi le travail. Le travail. Le conjoint idéal est quelqu'un qui travaille et valorise le travail. C'est un aspect fondamental à prendre en compte dès le début de la relation. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que j'essaie de nous dire, c'est quoi? C'est que quand tu te mets à marcher avec quelqu'un, ça me fait rire parce que ce que je veux dire, quand tu te mets à marcher avec quelqu'un et tu vois que cette personne-là n'aime pas travailler, dans notre pays, le Gabon, il y a des gens qui n'aiment pas travailler. Et dans le cadre d'une relation amoureuse, tout ce qu'ils veulent, c'est se caser avec quelqu'un qui va les entretenir. Ça, c'est quelque chose qui caractérise beaucoup les Gabonais. La Bible nous dit, Proverbe 12, 27, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Ou encore, le travail. Le travail est un trésor dans lequel on découvre son potentiel et on libère les richesses que Dieu a déposées en nous. Mais il y a des gens pour qui le travail n'est pas un trésor, mais plutôt un fardeau. C'est plutôt la paresse qui est leur trésor. Je vous donne un exemple. Je vais donner deux exemples pour que tout le monde comprenne bien. Je n'ai pas envie de cataloguer juste un type de personne. Le premier exemple, c'est les gens qui ne cherchent. Ce sont les femmes. Le premier exemple, ce sont les femmes. C'est les femmes qui cherchent des hommes pour les entretenir. Ça, malheureusement, on en retrouve beaucoup ici, dans notre pays. Elles cherchent le gars qui a l'argent. Elles cherchent le gars qui pourra l'entretenir. Dès qu'elle s'est trouvé son pigeon, elle se met à l'aise, elle le coince bien comme il faut, elle l'enferme dans la bouteille, comme on dit, et puis... Quand le mariage arrive, madame, elle ne veut plus travailler. Monsieur, il est, je ne sais pas où, il est à 2,5 millions par mois. Tu veux que je travaille pour quoi? Donne-moi l'argent, j'ai besoin de la voiture, j'ai besoin de l'essence, mettre dans la voiture, j'ai besoin de faire ceci. Il l'entretient. quand il est bien placé, quand il gagne bien sa vie en plus, madame, elle va voyager, ça va être des Chanel et des Dior, mais travaille pas, elle fout rien. Travaille pas. Le gars l'entretient. Et ça, c'est beaucoup chez les femmes gabonaises. Heureusement que ce n'est pas un cas général. Parce qu'il y en a, des femmes qui ont quand même un peu de dignité et qui travaillent. Mais beaucoup de femmes sont comme ça. Une fois, je rencontre dans les rues de Libreville une femme, à l'époque, une fille avec qui j'ai fait l'école au lycée Mba. Et quand je la vois, je suis content de la voir. Oh, Judith, comment tu vas? Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens? Je suis là, Libreville. Qu'est-ce que tu fais? Ben, rien. Comment ça, rien? Tu travailles pas. Ah, tu cherches du travail? Non, non, pourquoi tu cherches du travail? Mais tu... Je suis marié. Non, je t'ai demandé si tu cherches du travail. Elle me fait, je suis marié. Et puis elle me répond, tu sais, d'un air avec l'accent gabonais là. Oh, toi aussi. Moi, j'ai trouvé quelqu'un. Donc, tu as trouvé quelqu'un? Oui. J'ai trouvé quelqu'un. Enfin, j'ai trouvé mon gars. J'ai trouvé mon pigeon. Ou bien tu croises la gabonaise qui va se trouver son beau français. Lui aussi, idiot comme il est. Et ben, il travaille à Shell, je ne sais pas où. Et puis, il gagne bien sa vie. Et puis, il va entretenir. Ah, c'est la bêtise, ça. Elle ne veut pas travailler. Et il y en a beaucoup comme ça. Ça, c'est un exemple typique, hein. Matérialiste. Mais par la grâce de Dieu, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Est-ce que les femmes peuvent dire avec moi amen?
Amen.
Donc, hommes, faites très attention aux femmes matérialistes, hein. Parce que la femme de l'Éternel, c'est celle que Salomon nous décrit dans Proverbe 31. J'en ai pris quelques lignes. Regardez ce que Dieu dit. Et je voudrais que toutes les femmes se reconnaissent bien là-dedans en ce qui concerne le travail. La femme vertueuse, la femme de l'Éternel, hein? Est-ce qu'une femme peut dire avec moi, c'est moi?
C'est moi.
Elle se lève avant le jour. Elle prépare le repas de sa famille et distribue à ses servantes leur travail. Après avoir bien réfléchi, elle achète un champ et plante une vigne grâce à l'argent qu'elle a
gagné.
Elle se met au travail avec énergie et ne laisse jamais ses bras inactifs. Elle constate que quoi? Ses affaires vont bien. Elle travaille même la nuit à la lumière de sa lampe. Elle travaille. Elle travaille avec énergie. Elle n'est pas inactive. Elle travaille. Elle se lève avant le jour. Elle n'est pas paresseuse. Dort beaucoup. Une femme qui dort beaucoup, il y a un problème. Elle dort. Il y a des femmes qui aiment dormir. Tu appelles à midi. Tu fais quoi? Je dors. Tu dors à midi, une femme. Tu n'as rien à faire. Une femme, elle dort. Et puis, elle prend soin du poids. Et puis, elle dort. Elle ne fait rien. Elle n'aime pas travailler. Et puis, quand elle se lève, elle appelle son pigeon. Tu vas bien? Tu fais quoi? Je suis au travail. Ah, c'est bien, travail. Travail. Et je suis là, oui, oui, chérie. Oui, je... Oh, tu sais, j'étais avec l'autre monsieur là. Oui, et puis elle laisse mon adresse se prélasse toute la journée. D'accord. On se voit à 18h, hein? On va où? Oh, on va là, en ville là. Hein? On va là à l'émir là. Non, d'accord, c'est bien. D'accord, tu viens me chercher? Ah, mais toi aussi, tu connais le bouchon de l'aéroport là, c'est long. Oh, tu sais que j'aime pas prendre le taxi. Oh, viens me chercher. Pigeon. Pigeon. Elle t'a mis dans la bouteille. Elle t'a mis dans la bouteille. Il y en a beaucoup des femmes comme ça. Et quand elle est là, elle... Ah, vraiment, Jésus, délivre-nous. L'exemple numéro 2. Il y a des hommes comme ça. Ah, on ne va pas tirer que sur les femmes. Il y a des hommes, dès qu'ils trouvent une femme qui travaille et gagne bien sa vie, ils trouvent le moyen de l'embobiner. Lui pompe son argent et lui, il reste assis toute la journée à la maison. Un paresseux. Un gigolo. J'en ai connu comme ça et j'en connais encore aujourd'hui. Je n'ai pas envie de dire les noms ici parce qu'un jour, qui sait, peut-être ils vont donner leur vie à Jésus et puis ils vont écouter mon message. Donc, je n'ai pas envie de dire leur nom. Il vient et puis, gigolo comme il est, il se met avec elle, il amène à la bouteille un enfant, deux enfants, trois enfants. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Quand il est 11h du matin, tout le monde est au travail, tu le croises dans la rue. Oh, tu fais quoi là? Tonton, ça va? Oh, tu fais quoi? Rien, rien là, je vais au PMUG là. Tu ne travailles pas. C'est le PMUG qu'un jour tu penses gagner 10, 15, 20 millions. Hein. C'est ça ton travail. Et ça, c'est typique. Un gigolo, il y en a plein comme ça. Et les gens disent, mais le gars là, laisse-le. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Laisse-le. C'est un gigolo, il te pompe ton argent. Non, il est bien. Ce qu'il me fait, oh vraiment. Ce qu'il me fait, tu ne sais pas ce qu'il me fait, l'homme là. Ce qu'il me fait, c'est fort. C'est pas fort, il t'a endormi. Il t'a endormi, c'est un gigolo. Donc femme, faites attention aux paresseux. Parce que voici ce que la Bible nous dit du paresseux. Les désirs du paresseux le tuent. Proverbe 21-25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Ses mains refusent de travailler. Donc, le conjoint idéal, c'est celui ou celle qui valorise le travail, même si l'autre gagne bien sa vie. Demain, dans le foyer, tu devras être toujours capable de gagner aussi dignement ta vie, même si en tant que femme, ton mari doit te donner aussi de l'argent, mais il faut que tu sois capable aussi de te lever et d'aller aussi travailler, parce que ça fait plaisir de gagner de l'argent à la fin du mois, de l'argent qu'on a travaillé. Ça fait plaisir. Donc, dans le foyer, on peut être monsieur, madame, demain, et les deux travaillent, et les deux font rentrer de l'argent, et non pas prendre plaisir à ce qu'un seul travaille. Amen. Donc, que le chômage ne frappe jamais ta porte, et que tu sois toujours capable de travailler et gagner dignement ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen avec moi. 18e critère du conjoint idéal, il a le sens de la propreté. Est-ce que tu peux dire avec moi la propreté? La propreté. Il a le sens de l'organisation et de la propreté. Ah, quelqu'un va me dire, mais pourquoi le pasteur parle de propreté dans le cadre des relations amoureuses? Je ne comprends pas. Parce que tu vas te rendre compte que quand on construit une relation avec quelqu'un, il y a des gens qui sont sales. Et la saleté, ça devient des ça peut semer des problèmes dans un couple. La saleté, quand l'un des deux est quand l'un des deux est sale, c'est un critère qui semble banal à première vue, mais ça peut pourrir une vie dans un foyer. Il y a des gens en apparence, quand vous êtes encore au début de votre relation, il a l'air beau, etc., bien. Mais quand tu regardes bien, c'est quelqu'un de sale. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement sale et qui n'a pas d'éducation, quand il arrive dans un couple, ça pourrit le couple. Surtout, par exemple, s'il se met avec quelqu'un, avec l'autre est propre. Oui? La saleté, dis avec moi la saleté. Il ne faut pas te mettre avec quelqu'un qui est sale. S'il est sale, il faut lui dire tu es sale. Non, il ne faut pas dire ça comme ça. Dis-le, tu sais, tu peux faire mieux, mais fais pas comme ça. Fais pas comme ci, comme ça. Il ne faut pas dire tu es sale, c'est pas bon. C'est une insulte, ne dis pas ça. Il ne faut pas dire ça. Tu risques de casser la relation, sinon c'est pas bon. Et on trouve ça beaucoup dans les couples mariés. Parce que tu ne peux pas vraiment le voir quand vous vivez pas ensemble. Hein? Alléluia, on est des bons chrétiens, on ne vit pas ensemble. Donc tu ne peux pas voir, d'accord? Et le jour où vous êtes en Christ, vous vous êtes préservés, etc. Donc vous vous mariez, et puis quand tu arrives à la maison, dès le premier jour de vos noces, dès qu'il enlève les chaussures, tu fais « Oh là là, Jésus, tes chaussures, c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? » Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de te voir sans chaussures, mais là, il y a un souci, là. Ça sent pas très bon. Oui, la saleté peut se caractériser par plusieurs choses. Par exemple, il n'a pas le sens de l'ordre dans la maison. Quand l'autre ange, lui, il passe derrière mettre tout en désordre. Il mange et ne se lave jamais les mains avant et ne lave jamais son assiette après en se disant « Ah, quand elle va rentrer, elle va laver pour moi. Elle n'est pas ton esclave. » Là, je parle aux mariés. Ça, c'est pour ceux qui doivent se rattraper. Ou bien, par exemple, il va se déshabiller et laisse son linge par terre pensant que c'est elle qui va ramasser. Ou le contraire. Désordonné. Pire encore, un jour, par exemple, il t'a invité chez lui. Vous êtes tranquille, etc. Tu l'as invitée plutôt chez toi. Elle est venue et puis elle doit repartir. Avant de partir, tu dis, je peux emprunter tes toilettes? Oh, mais il n'y a pas de problème, vas-y. Quand elle sort du toilette, quand tu y vas, elle n'a pas tiré la chasse. Ah, ça, c'est quelle femme, ça? Comment elle tient pas la chasse, elle aussi? Des choses simples comme ça, banales, mais des choses qui sont révélatrices. Il arrive à beaucoup de choses. Pour les couples mariés, par exemple, tu vois ça chez les couples. Parce que tu n'as pas pris le temps de veiller à ça, de voir ça. Et puis, quand vous vous mariez, monsieur, quand il a des gaz, il le fait devant tout le monde. Il ne s'excuse pas. C'est normal. Ça, c'est la saleté. Oui, c'est des choses simples, mais c'est des choses qui peuvent... Ça ne fait pas rire tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que tu peux te permettre de faire certaines choses. Toi aussi, tiens-toi un peu, c'est quoi ton problème? Tu ne peux pas te mettre à côté là-bas. C'est quoi ton problème? Toi aussi, on est comme des êtres humains. Je n'ai pas envie de dire le mot, on est sur l'estrade, on est sur la chair. Hein? Mais c'est des choses banales qui se retrouvent dans le foyer. Oui, quand les invités arrivent à la maison, parce que lui, il est désordonné et sale. Tu vois, il y a des gens maintenant qui sont venus nous voir pour ramasser. Ah, mais c'est bon, on est chez nous, on est, ils vont dire quoi? Comment ça, ils vont dire quoi? On a les invités, soit ordonnés. Donc, par exemple, vous êtes aujourd'hui fiancé, partenaire, fiancé, vous voyez depuis un certain temps. Tu vois que l'autre, il est sale, désordonné. Il faut savoir lui dire ça avec amour. Tu sais, demain, quand on sera marié, ce genre de choses, je n'aimerais pas voir ça dans la maison. Pourquoi? Ça te dérange? Mais bien sûr que ça me dérange. C'est de la saleté. Ou bien, vous êtes ensemble, partenaire pour le moment, fiancé, mais chaque fois que tu vas le voir chez lui, il y a toujours une tonne de vaisselle. Tonne de vaisselle. Et tu vois même, quand tu regardes les assiettes, toi, la pauvre femme, quand tu arrives, tu regardes, tu vois la nourriture même colle déjà. C'est là depuis longtemps. Tu te dis, mais toi aussi, tu n'as pas les assiettes chez toi? Ah, j'ai pas le temps. Mais tu vis seul, qui va nettoyer les assiettes? Bah, c'est toi, nettoie. Oh! Il y a un souci. Ça veut dire que lui, il n'aime pas laver les assiettes. Il ne faudra jamais... C'est des choses simples. C'est des choses simples, mais... Quand il rentre de la maison, par exemple, il arrive, toi, tu as nettoyé, et puis lui, il vient, il ne se déchausse pas. Et il salit. Des choses bêtes, mais des choses qui énervent. Est-ce qu'on peut dire avec moi, gloire à Dieu? Il y a des femmes, tu vas leur parler des choses comme ça, elle va dire, ah, mais on va faire comment? Il est comme ça? Non, ce n'est pas bon. Il faut changer ça. Donc, j'ai simplement envie de dire que vous n'êtes pas encore marié, mais si tu discernes que c'est quelqu'un de très désordonné et de sale, il faut trouver les mots doux et sages pour l'aider. Mais bon, bon courage. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Amen. Le 19e critère, on a bientôt fini, du conjoint idéal. Il aime les enfants. Est-ce qu'on peut dire avec moi les enfants? Quelqu'un va me dire, mais naturellement, tout le monde aime les enfants. Excuse-moi, tout le monde n'aime pas les enfants. Tout le monde n'aime pas les enfants. C'est une qualité que l'on retrouve particulièrement chez Dieu. On a tendance à penser que tout le monde aime les enfants parce qu'ils sont mignons. Mais tout le monde n'aime pas les enfants mignons. Tout le monde n'aime pas ça. Vous êtes ensemble, quand vous êtes dans un environnement où il y a des enfants, tu vois que lui, à chaque fois, ça l'irrite. Tu dis, mais c'est quoi ton problème avec les enfants? Pourquoi ça t'irrite? Pourquoi tu n'aimes pas les enfants? Il n'aime pas les enfants. Il ne supporte pas les enfants. Il y en a qui sont comme ça. Matthieu 19, 13 nous dit ceci. Alors, regardez bien ce passage, très important. Matthieu 19, 13. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et les pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Des enfants. Les enfants voient Jésus. Oh, Jésus, des enfants. Oh, quittez-la! Quittez-la! Oh. Ça, c'est les disciples. Ils les repoussèrent. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, laissez venir à moi les petits enfants, ceux qui ont la même attitude que le royaume de Dieu est à eux. C'est quoi votre problème? Pierre, Jacques, Jean, c'est quoi? Les enfants vont me faire quoi, vous aussi? Hein? C'est quoi le problème? Vous les repoussez pourquoi? Les enfants, ils veulent venir voir Jésus. Vous vous repoussez, c'est comme si c'était des adultes, Dieu comprendrait, vous faites la garde, vous protégez Jésus, mais c'est des enfants, c'est bon. Ils n'aiment pas les enfants. D'ailleurs, on n'a jamais vu ailleurs dans la Bible jouer avec des enfants. Il n'y a que Jésus qu'on voyait jouer avec les enfants. Eux, le Saint-Esprit n'a pas pris le temps de pouvoir écrire, on vit Pierre prendre un enfant dans ses bras. On n'a pas vu ça dans la Bible. Et quand tu vois ça, ting, dis-toi, dis-moi chérie, qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants? Il y en a par exemple, vous êtes ensemble, et puis tu vois, vous vous êtes mariés, toi tu penses que vous allez développer votre foyer tranquillement, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, et puis la personne, tu rends compte, il n'y a toujours pas d'enfant qui arrive. C'est pas que l'enfant, c'est pas que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, c'est parce qu'elle ne veut pas d'enfant ou lui ne veut pas d'enfant. Et ça commence à devenir un problème dans le couple. Quand tu découvres qu'en fait c'est lui ou elle qui ne veut pas d'enfant. Pourquoi tu ne veux pas d'enfant? Attends, moi j'ai ma carrière professionnelle, hein, je n'ai pas envie que ça vienne tout stopper. On a le temps. Quand on a le temps, ça fait déjà 6 ans, 7 ans qu'on est mariés. Tu attends quoi? Bah écoute, ça viendra. Par la grâce de Dieu, ça viendra. Mais pour le moment, non. Quoi pour le moment, non? Pourquoi tu veux attendre? Qu'est-ce qu'on attend concrètement? Ben écoute, quand on sera prêt. Problème. Problème. Parce que là, il peut te faire attendre très longtemps avant d'avoir un enfant. Ouais. Problème. Vous êtes dans une pièce, vous n'avez pas vu des gens comme ça? Dès qu'il y a les enfants, ah, les enfants là, on est là. On met les enfants dans la chambre là-bas. Oh, ça fait le bruit ici là. Ça fait le bruit ici. Alors que les enfants, hier j'avais 3 enfants chez moi. Enfin, 2 plus ma fille. Mon Dieu. Au bout d'un moment, c'était... J'aime les enfants, mais au bout d'un moment... Oh, oh, oh. Non, c'est bon. Pourquoi vous criez comme ça? Mais il faut être capable de... ne peut supporter ça que des gens qui n'ont pas de problème avec les enfants. Par contre, il y a des gens, ils ont reçu un don. Je ne sais pas d'où vient ce don. C'est vraiment que le Saint-Esprit qui peut donner ce don. C'est des gens, ils peuvent être là avec 100 enfants. Et puis, ils sont là, calmez-vous. Juste là, je regarde, je fais, mais comment elle fait? Moi, les femmes qui sont dans les garderies, qui gardent les enfants, là, c'est un don. C'est un don, je vais faire la parenthèse. Hein? Mais il y en a, pour eux, ils n'ont pas reçu ça. Tu vois, non. Donc, juste un enfant, déjà, comme Pierre-Jacques, genre, ils les repoussèrent. Oh! Non, le conjoint idéal est celui qui n'a aucun problème avec les enfants et qui aime les enfants. C'est juste une parenthèse que je faisais, mais tu marches avec quelqu'un qui a un souci avec les enfants, qui n'aime pas les enfants, il faut l'interpeller par rapport à ça. Tu sais, on a appelé à avoir des enfants. Hein? Oh, mais moi, je ne veux pas plus de 2 enfants. Pourquoi? Attends. 1, c'est déjà pas mal. 2, ça devient tendu. 3, c'est tout simplement pas pensable. 4, c'est même pas la peine qu'on en parle. Il y en a qui sont comme ça. Ah non, non, non. Mais moi, j'ai envie encore d'avoir 1 de plus. Ah non, 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 non. 2, c'est déjà bon. Mais je veux en avoir plus. Plus, c'est la, plus d'enfants, c'est la richesse. Non, quoi? 2, 3? Oh non. Oh. C'est quoi le problème? 3, 4 enfants, c'est beaucoup, tu trouves? C'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup. Beaucoup. C'est comme ça que tu retrouves beaucoup dans certains foyers en Europe. Ils veulent pas plus d'un enfant, 2 enfants. Alors que les enfants, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais là, ils vont te dire, c'est pas magnifique, c'est des problèmes. Il faut t'en occuper, les enfants. Mais Dieu va te donner la possibilité de t'en occuper. Gloire à Dieu. Amen. L'avant-dernier critère du conjoint idéal, c'est qu'il est patient et sait attendre le bon moment. Il n'est pas quelqu'un de précipité dans les choses. Dis avec moi la patience. La patience est un fruit de l'esprit. C'est une grande qualité qu'il faut toujours chercher à développer. Quand tu marches avec quelqu'un et que tu développes avec une relation amoureuse, veille avec lui à développer la patience. Et toi aussi, personnellement, sois quelqu'un de patient. La patience est un fruit de l'esprit que Paul nous donne dans Éphésiens 4, au verset 2, lorsqu'il dit, version parole vivante, qu'on voit plutôt dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient. En particulier dans vos rapports mutuels. Portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Soyez patients les uns envers les autres. Si tu ne sais pas être patient avec les gens de tous les jours, ce n'est pas dans une relation amoureuse que tu seras patient. Pourquoi? Parce que la personne avec qui tu vas développer une relation amoureuse aura beaucoup plus l'occasion de t'irriter parce que vous serez très proches. Il faut savoir être patient. Quand tu attends quelque chose ou quand tu veux voir quelque chose sortir de la personne et que tu vois que ça ne sort pas tout de suite, sois patient. Ne commence pas à l'indexer, à lui dire que tu es comme ça. Sois patient. Elle te dit qu'elle fait des efforts. Sois patient. Il te dit qu'il n'est pas encore prêt, etc. Sois patient. Vous avez traversé une crise difficile. La personne, au bout d'un certain temps, elle laisse le temps de se relever. Sois patient. Tu demandes quelque chose, sois patient. On te fait attendre. Sois patient. Amen. Sois patient. C'est un fruit de l'esprit. C'est une chose qui caractérise beaucoup Dieu. La patience va aussi te jouer des tours dans le cadre, dans l'action. C'est-à-dire, quelqu'un te fait quelque chose ou quelqu'un te parle et toi tu réponds rapidement. Tout à l'heure j'ai parlé d'écoute. L'une des choses qui est rare chez les gens, c'est la capacité à écouter. On répond plus. On passe plus notre temps à écouter pour mieux répondre après. Et au lieu de prendre le temps d'écouter les gens que l'on a en face de nous, et ça c'est très naturel, hein. On voit ça très souvent chez les gens. Les gens n'écoutent pas. Les gens parlent vite. Les gens se justifient tout de suite. Les gens cherchent toujours à se justifier. Ils ne prennent pas le temps d'écouter parce qu'ils ne sont pas patients. Ils ne veulent pas attendre. Et tu le vois dans le milieu professionnel, etc. Proverbe 21 au verset 5 nous dit « Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. » Là, on parle un peu de projet. Tu as des projets et tu veux aller vite. On parle de mariage. Et tout à l'heure, au début, je vous disais « Soyez patient, prenez votre temps, le temps de vous préparer. Il ne faut pas vous précipiter. » Et c'est valable dans tout. Quel que soit ce que tu veux faire, quel que soit avec qui tu es, qui que ce soit, etc., sois patient. Et le conjoint idéal, c'est celui qui est patient. Et si tu vois que la personne avec qui tu es est quelqu'un d'impatient, alors il faut que vous travailliez ça. Parce que la patience, le manque de patience, ça peut vous jouer des tours. Proverbe 18, 13 nous dit, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Manque de patience. Et toi, en tant que personne privilégiée auprès de lui, tu dois veiller à cela. Et toi, à titre personnel aussi, tu dois aussi veiller à cela. Parce que la patience, c'est un fruit de l'esprit que l'on néglige beaucoup, mais qui peut nous jouer des tours. La patience a coûté la terre promise à Moïse, parce qu'il a manqué de patience. Dieu lui a dit, par le rocher, lui, irrité et colérique, il frappe le rocher, parce qu'il était impatient face au peuple. L'impatience. Amen. Dis avec moi la patience. Donc, dans ton couple, apprenez à cultiver la patience. Soyez patients les uns envers les autres. Toi-même, cultive beaucoup la patience. Et le jour où tu vas découvrir la puissance qu'il y a derrière la patience, tu vas te rendre compte, tu vas découvrir pourquoi Dieu est ici, pourquoi Dieu est Dieu. Parce que derrière la patience, il y a une puissance. Dans la patience, il y a une force, la capacité à rester là, à attendre. La patience est une caractéristique que l'on retrouve aussi beaucoup chez les gens qui sont sages. Les gens qui sont sages sont des gens qui savent attendre. C'est des gens qui ne se précipitent pas. Quelqu'un me disait par exemple, il n'y a pas très longtemps, on parlait de voiture. Et il me dit, il faut que tu achètes une voiture. Je lui dis, pourquoi? Je ne suis pas pressé. Je suis en train d'économiser pour m'acheter une voiture. Il me dit, mais attends, il faut que tu prennes même une petite voiture, 1 million, 2 millions, là, les petites voitures. Je lui dis, pourquoi? J'économise parce que je vais m'acheter une très belle voiture. Ah, mais tu vas attendre. Je suis en train d'économiser. Je vais peut-être encore économiser peut-être 7-8 mois là. Oh, tu vas rester 8 mois sans voiture. Ah non, si c'était moi, franchement, j'irais vite me prendre une voiture. Je vais te prendre vite une voiture et tu vas te retrouver avec plein de problèmes. Moi, je préfère être patient et je m'achète ma voiture, celle qui me plaît. D'accord? Et la patience paye. Amen. Gloire à Dieu. Le dernier critère du conjoint idéal. Et on a fini. C'est qu'il a une vie de prière et aime cultiver la présence de Dieu dans la méditation de sa parole. Dis avec moi la prière et dis avec moi la parole. Je finis avec ça parce que c'est très important. Quand tu construis une relation avec quelqu'un, surveille et veille à ce que ce soit quelqu'un qui prie. Si tu te mets avec quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui n'aime pas prier, c'est dangereux. C'est très dangereux. Le conjoint idéal est celui qui consacre du temps à Dieu. Ouais. Marc 1, 35, Jésus-Christ nous donne le meilleur exemple. Ah, je ne l'ai pas écrit. Jésus-Christ nous donne le meilleur exemple. Marc 1, au verset 35, il dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Et toi, n'attends pas d'être dans le mariage pour commencer à cultiver une vie de prière. Sois quelqu'un qui cultive une vie de prière déjà seul. Rappelez-vous l'enseignement sur le principe du seul à seul. C'est quelqu'un qui cultive la présence de Dieu. Et quand tu es avec quelqu'un qui aime la présence de Dieu, tu sais que lui, c'est quelqu'un qui lit la Bible, c'est quelqu'un qui prie beaucoup, etc. Rends gloire à Dieu pour ça. Et surtout, veille à ce qu'il ne perde pas ça. Amen. Parce que David nous dit, psaume 119 au verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Amen. Donc, le conjoint idéal n'est pas quelqu'un de parfait. Le conjoint idéal, c'est toi qui vas la rendre parfaite. C'est toi qui vas le rendre parfait. Mais quand vous allez cheminer ensemble pour aller jusqu'aux fiançailles et jusqu'au mariage, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous allez devoir veiller. Il y a beaucoup de choses que vous allez devoir corriger. Parfois, il y a certaines personnes, tu l'aimes, mais tu dois être capable de dire, tant que ce point-là n'est pas corrigé, je ne l'épouse pas. Parce que si je l'épouse dans cet état-là, il va me faire souffrir. Je préfère attendre. Et lui-même, il m'a dit qu'il fait des efforts pour changer. Alors, j'attendrai de voir le fruit. Ensuite, nous nous marierons, toi et moi. Mais il ne faut surtout pas se presser. Parce qu'il y a des choses qui sont très capitales et qui peuvent bousiller un foyer. Des choses simples. On a parlé de la crainte de Dieu. On a parlé de l'intégrité. On a parlé de la fidélité. On a parlé de la manière dont il parle, comment il se comporte, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc là, j'ai donné des choses succinctes. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'on peut dire. D'accord ? Il y a des choses, c'est seulement dans votre relation personnel avec la personne que vous allez voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être le pasteur n'en a pas parlé en détail, mais on l'a peut-être évoqué, mais je dois m'assurer que ce point-là, si, pose-toi toujours la question, ok, aujourd'hui je vois ça, admettons, imagine que ça grossit dans sa vie. Quelles pourraient être les conséquences dans ma vie à moi en fait? Quelles pourraient être les conséquences dans notre couple si il ne règle pas ça? Par exemple, tu découvres que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Il aime l'argent. Un vrai pixou. Et puis, quand il s'agit d'argent, tu sens qu'il est... Il est proche de l'argent. Il aime trop l'argent. Ça, c'est pas bon. Il faut savoir lui faire comprendre que tu sais, Jésus-Christ a dit que l'argent, c'est maman. Fais attention. Hein. Fais attention à l'argent. Parce que quand je te vois là, tu aimes trop l'argent. Il y a beaucoup de choses. Donc, que Dieu nous fasse grâce. On a fini. Que Dieu nous fasse grâce. Et que le Seigneur puisse nous amener à nous corriger en cours de route. Ça concernait beaucoup ceux qui n'étaient pas mariés. Mais ceux qui sont mariés aussi se sont reconnus dans beaucoup de choses et peuvent les corriger. Amen. Dieu veut qu'on réussisse notre mariage. Dieu veut qu'on réussisse la préparation à notre mariage. Et par la grâce de Dieu, nous réussirons et ta vie sera un témoignage à la gloire de Dieu. Il faut que les gens demain puissent te regarder et dire, voici un couple exemplaire. Parce qu'ils ont fait ils ont suivi le process de préparation divin et ils se sont mariés à la gloire de Dieu. Amen. On va incliner la tête. Je voudrais que tu élèves la voix, que tu dises à Dieu, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as faite de pouvoir entendre ces choses. Et je te demande, Père, de m'aider, de me fortifier. Merci d'avoir renouvelé mon intelligence. Merci de m'avoir permis de comprendre, Seigneur, ces choses ô combien importante. Merci Père parce que tu m'as accordé la grâce Seigneur de me découvrir, de voir des choses que même moi personnellement je dois corriger. Alors je te dis simplement merci. Merci Père pour ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence au simple. Tu dis dans ta parole comment le jeune rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Merci parce que tu m'accordes la grâce d'être moi-même un très bon conjoint pour l'autre. Tu m'accordes la grâce de me corriger. Tu m'accordes la grâce Seigneur de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la droiture, de marcher dans la fidélité, d'être quelqu'un de patient, d'être quelqu'un de humble, d'être quelqu'un qui valorise les autres, d'être quelqu'un qui élève les autres, d'avoir un caractère intègre, d'avoir, Seigneur, un caractère qui te plaît, d'être, Seigneur, quelqu'un qui marche, Seigneur, en te faisant plaisir et en étant ta joie. Merci pour Jésus-Christ qui a été l'exemple parfait. Merci parce que tu m'accordes la grâce de calquer, Seigneur, ma vie sur celle de Christ, afin que, Seigneur, Christ en moi, l'espérance de la gloire, soit révélée, Seigneur, au plus grand nombre. Je te dis merci, Père, pour ta parole qui me donne encore de la sagesse et qui me permet de grandir et d'être mature. Car le mariage, c'est pour ceux qui sont matures. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, ce n'est pas pour les plaisantins. Le mariage, ce n'est pas, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas avertis, mais c'est pour ceux qui ont appris à se connaître, qui ont appris à développer, Seigneur, une relation de seul à seul avec Dieu, qui ont appris, Seigneur, à construire une relation amoureuse sérieuse avec quelqu'un, qui ont une vraie vision pour leur vie, une vraie vision pour leur foyer, une vraie vision, Seigneur, pour leurs enfants, leurs futurs enfants, pour leur couple, Père de grâce. Merci, Père, parce que, Seigneur, Satan est vaincu, Seigneur, dans mon couple, et il ne viendra pas semer la cisanie dans mon couple. Seigneur, toutes les semences que Satan a pu semer dans les couples, Seigneur, au sein de ton église, que ces semences meurent à l'instant au nom de Jésus-Christ et que le diable soit exposé dans tous les couples afin que, Père de grâce, la lumière de Christ puisse resplendir dans tous les couples, Seigneur, de ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te recommande encore les jeunes, Seigneur. Je prie pour la jeunesse, Seigneur. Je prie que tu puisses susciter des jeunes, Seigneur, sages, Seigneur, remplis du Saint-Esprit et qui décident de se consacrer pleinement à Jésus-Christ, Seigneur. Loin d'eux, Seigneur, l'impudicité. Loin d'eux, Seigneur, la débauche. Loin d'eux, Seigneur, toutes sortes de maladies. Loin d'eux, Seigneur, toutes sortes d'égarements. Que, Seigneur, ta jeunesse, Seigneur, te soit consacrée et qu'elle puisse rayonner, Seigneur, pour ta seule et unique gloire, Père, au nom de Jésus. Je te recommande également les couples qui sont déjà mariés, Seigneur. Peut-être que, Seigneur, ils ont fait des erreurs en cours de parcours. Peut-être, Seigneur, qu'ils ont fait des choses, Seigneur, qui a amené beaucoup de crises dans leur couple. Mais je te demande maintenant de guérir, je te demande de restaurer, je te demande de relever, Seigneur, ceux qui sont tombés, de guérir, Seigneur, ceux qui sont malades, de guérir les couples malades, de soigner les couples malades, de restaurer les cœurs brisés, Seigneur, et de libérer ton amour, Seigneur, au milieu des couples brisés, Seigneur. Éclaire, Seigneur, ramène les maris, Seigneur, partis, ramène les femmes parties, Seigneur, et restaure, Seigneur, les couples, Seigneur, qui se sont séparés. Et que, Père de grâce, ceux qui sont sur le chemin du mariage puissent, Seigneur, toujours chercher d'abord ta face, Seigneur, afin de se marier à l'image de Christ pour ta gloire, Père, au nom de Jésus. Je te dis encore merci pour ces paroles, pour ces enseignements. Instruis-nous encore pour la suite, Seigneur, de cet enseignement. Et que, Père de grâce, nous puissions, Seigneur, devenir sages, car ce que tu veux, Père. À toi la gloire, à toi la louange, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen, 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 et acclame le Seigneur. Amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.